Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Média 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence, à l'heure où l'on parle de transition énergétique en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Nous braquons les projecteurs sur la rentabilité des projets environnementaux dans les pays africains. Ce sera avec notre invité Marc Onan, il est le président de l'ONG Brain Forest. Il sera avec nous depuis Libreville au Gabon. Mais avant cela, nous ferons un petit détour par Abidjan où se prépare la prochaine édition du Forum international du logement social, économique et de standing, l'occasion de mesurer les opportunités de développement du secteur de l'immobilier dans la première puissance économique de l'UMOA. On fera le point dans les échos de la semaine. Notre destination écho nous mène au Ghana. Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique, nous présentera cette économie anglophone ouest-africaine de plus de 32 millions d'habitants. Quel est le menu de votre émission? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où l'on se prépare pour la tenue en juin prochain du 4e Forum international du logement social, économique et de standing. L'objectif de cet événement annuel est de mettre en place une plateforme d'échange, de promotion et de commercialisation des produits immobiliers, surtout dans une économie comme la Côte d'Ivoire qui a lancé ces dernières années d'importants projets immobiliers, mais où le potentiel de développement de ce secteur est encore énorme. Comme nous le dit Max Sou dans ce reportage depuis Abidjan, il donne la parole à Siriki Sangaré, le président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Vous entendrez aussi Amon Beonao, il est le commissaire général du Forum international du logement social, économique et de standing. Suivons ce reportage de Max Sou.
Le déficit de logement en Côte d'Ivoire est estimé à environ 500 000 logements et se creuse d'environ 40 à 50 000 unités par année selon un rapport de la Banque mondiale. Ce déficit est particulièrement marqué dans la zone du Grand Abidjan, sur laquelle se concentre cette étude. Depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara a mis en œuvre le programme présidentiel de logements sociaux et économiques avec un objectif initial de 60 000 logements, porté aujourd'hui à 150 000 unités. L'édition 4 du Forum international du logement social, économique et standing portera essentiellement sur l'accès au logement en Côte d'Ivoire, une question devenue sempiternelle.
L'objectif qui se déclare à travers cette 4e édition, c'est pousser nos jeunes à avoir des logements décents. C'est de travailler sur vraiment l'accessibilité au logement. C'est de pouvoir travailler sur la transition écologique, travailler sur tout ce qui est innovation urbaine, travailler sur un plan directeur avec nos autorités de sorte que nous ne fassions pas de lotissements anarchiques et de constructions anarchiques. Travailler sur une bonne planification urbaine, sur une bonne gestion urbaine et sur un bon aménagement urbain.
Les prix du logement et du foncier augmentent partout entre 70 et 80% et leur structuration change. Le prix du terrain est presque équivalent à celui du bâti dans la constitution du coût du logement. Dans une telle situation, l'accès au logement pour tous, logement privé ou public, en location ou en accès à la propriété, ne peut se faire sans une intervention des pouvoirs publics.
Nous, ce que nous faisons, c'est de mettre en contact direct des partenaires crédibles, des constructeurs crédibles, des promoteurs crédibles à la disposition de la population.
La 4e édition du rendez-vous de l'immobilier de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest se tiendra en présence des délégations de plusieurs pays africains, notamment le Royaume du Maroc.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Marc Onan, il est le président de l'ONG Brain Forest, basée à Libreville, au Gabon. Avec lui, nous allons nous interroger sur la rentabilité des projets environnementaux dans les pays africains. Cela, à l'heure où l'on parle de transition énergétique en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Bonjour à vous, Marc Onan.
Bonjour.
Alors, comme je le disais à l'instant, vous êtes le président de l'ONG Brian Forest. Vous savez ce qui se passe en termes d'exploitation des forêts en Afrique. Alors, Marc Onan, on parle de transition énergétique aussi. Est-ce qu'il y a de la rentabilité dans les projets à vocation environnementale en Afrique?
C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a de la rentabilité dans les projets environnementaux en Afrique? Il faut d'abord définir ce qu'on entend par projet environnemental. Je pense que l'opinion publique africaine n'a même pas encore saisi la notion. C'est pour ça qu'il y a non seulement une sorte de confusion qui est installée, mais aussi une volonté pour ceux qui amènent des projets en Afrique, des projets environnementaux, de les placer un peu au-dessus de la compréhension du grand public. Je vais vous prendre un exemple très simple. En Afrique, il y a ce qu'on appelle des produits forestiers non liés. Le commerce, des produits forestiers non liés. Ce sont des produits qui n'ont rien à voir avec l'exploitation forestière. Je prends un peu le Gabon, le cas du Gabon. Si on décide de réaliser un projet allant dans le sens de la récolte de la résine de Koumé, c'est un résidu issu d'un arbre, mais qui est très, très prisé dans le monde de la parfumerie. Ça veut dire qu'on crée un projet pour les populations, pour que ces populations ramassent la résine de Koumé afin de la commercialiser auprès des grands parfumiers européens et même en Asie, chez les Chinois, les Indiens, qui fabriquent de l'encens. Mmh. C'est un projet environnemental qui ne détruit pas, mais qui entretient l'arbre. Ça veut dire quoi? Au lieu de couper le coumé et déforester, on extrait la sève de cet arbre parce que naturellement, cet arbre rejette la sève.
Mmh. Alors,
on dit que cette sève se gaspille. Mmh. Donc, ce projet est rentable, mais est-ce que les gouvernants vont mettre les moyens pour rentabiliser ce projet?
À vous entendre parler, les projets environnementaux sont d'une très grande rentabilité, mais c'est un problème d'investissement qui se pose en fait.
C'est un problème d'investissement et c'est un problème d'intérêt pour les gouvernants et pour les populations. Parce que moi, en discutant avec des amis parfumiers en Europe, il me dit qu'un kilogramme de résine de Koumé ne coûte pas moins de 200 000 francs CFA. Vous imaginez, pour une population qui voit la résine de Koumé se gaspiller, lui demander tout simplement de récupérer cela, non seulement c'est rentable pour la population, mais aussi, c'est aussi rentable pour le pays, en termes de rentrée de devise. Mais on ne va jamais mettre les moyens sur ce type de projet.
Mais est-ce que dans les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique, dans les stratégies de mise en place des projets environnementaux, est-ce que on prévoit en fait le côté investissement et rentabilité des projets à vocation environnementale?
Ça dépend du type de financement. Vous avez aujourd'hui ceux qui sont dans le marché du crédit carbone. Ceux qui sont dans le marché du crédit carbone, les investissements, la rentabilité, c'est à très long terme. Si on investit dans les plantations d'arbres pour les exploiter peut-être dans 10, 20, 30 ans, je pense que celui qui met son argent n'a pas de rentabilité tout de suite. Et peut-être en termes de séquestration de carbone, il peut-être espérer quelque chose, mais pour les populations, il n'y a pas de rentabilité. Même pour celui qui met beaucoup d'argent, il n'y a pas de rentabilité immédiate. Donc, les approches sont différentes. Les multinationales qui investissent dans des projets carbone, ces multinationales ne pensent pas tout de suite gagner quoi que ce soit. Elles pensent tout simplement à compenser les émissions de gaz à effet de serre pour essayer de répondre à cette exigence de carbone. Voilà.
Alors, est-ce que cela dit la sensibilisation, la formation des acteurs économiques africains sur la nécessité d'investir dans des projets environnementaux rentables, est-ce que cela est aujourd'hui activé, cette sensibilisation-là, est-elle vraiment réelle?
Ça, je crois que tout dépend de la zone. Même des investisseurs, ils vous diront, écoutez, moi j'ai mis mon argent pour pour être rentable. Si ce n'est pas rentable, moi, tout de suite, je ne mets pas mon argent. Je pense qu'il va falloir effectivement que les études de rentabilité aillent beaucoup plus loin. Il n'y a pas beaucoup de sensibilisation. Vous avez d'un côté ceux qui parlent de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et vous avez ceux qui ont vraiment envie d'investir dans des projets environnementaux. Et qu'est-ce qu'on entend par projet environnemental? Je vous prends par exemple, je suis de Libreville, on a une décharge à ciel ouvert, la décharge de l'Indubé. Si un opérateur décide d'investir dans le traitement des ordures au niveau de Libreville, un, il a accompli un investissement rentable, deux, il a réalisé une opération de nettoyage de l'environnement. Maintenant, quel est le niveau de rentabilité de son projet? Il n'y a que lui et lui seul qui pourra le dire. Donc, tout dépend de chaque investisseur. Comment dire, le calcul de rentabilité dépend de chaque investisseur et par rapport à l'intérêt apporté.
Alors, voilà. Dans le continent, ces dernières années, de nombreux projets environnementaux ont été lancés. Je pense à la fameuse muraille verte qui doit traverser l'Afrique d'Est en Ouest. On pense aussi à ces projets au niveau du fleuve ou bien du bassin du Congo, du fleuve Congo. Alors, quelle est aujourd'hui la portée économique de ces projets-là?
C'est une bonne question. Je crois que la fameuse muraille verte, la rentabilité économique n'est pas attendue tout de suite. Si c'est juste pour compenser, renforcer le couvert végétal, en droit de renforcer le couvert végétal, celui qui met son argent pour planter les arbres pour la muraille verte, je ne sais pas s'il attend tout de suite en termes de rentabilité. Peut-être pour un fonds d'investissement qui met de l'argent auprès d'un État et au niveau des intérêts, peut-être ça peut être rentable. Mais au niveau de la rentabilité du pays, je ne vois pas la rentabilité. Au niveau du bassin du Congo, la plupart des projets qui sont projetés, je pense qu'il faut faire une différence entre ceux des investisseurs qui sont vraiment dans le business et ceux qui investissent dans les projets environnementaux avec des échéances beaucoup plus lointaines, c'est-à-dire répondre à l'appel de la préservation de nos écosystèmes, le changement climatique, à sauvegarder notre système écologique. Je ne pense pas, à mon avis, peut-être qu'il y a des calculs qui se font ailleurs, à mon avis, je ne vois pas la rentabilité tout de suite, peut-être à très long terme.
Alors, une autre question qui s'impose, on se rappelle des fameux 100 milliards promis à l'Afrique, qui peinent, il faut le dire, en tout cas à être versés de façon intégrale. Est-ce que les projets qui décrochent du financement, des financements à travers les COP, entre autres, est-ce que ces projets-là réussissent à contribuer l'insertion économique des populations concernées?
Ben, jusqu'à présent, ces financements qui sont promis ne sont pas gérés directement par les États. Par exemple, on identifie un projet de reboisement, on identifie un projet d'installation, par exemple, d'énergie renouvelable. On peut identifier un projet de construction de barrages hydroélectriques, parce que c'est l'énergie, c'est aussi l'énergie propre. Peut-être en termes de bénéfices pour les populations, mais en termes de rentabilité, parce que quand on parle de rentabilité, c'est celui qui met son argent qui doit trouver la rentabilité de l'argent qu'il a déposé. Moi, j'ai même l'impression, c'est en termes de compensation, ce sont des financements qui compensent des dégâts occasionnés par des grandes puissances, comme on le dit, des grands pollueurs, pour essayer de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Mais maintenant, en termes de rentabilité, je ne pense pas qu'on puisse... maintenant, les populations, est-ce que les populations jouissent des bienfaits de ces projets? Là aussi, il faut mener des études beaucoup plus loin. Parce que le bienfait d'un projet d'énergie, c'est apporter l'énergie vers les populations qui n'en avaient pas. Apporter de l'eau vers les populations qui n'en avaient pas, de l'eau courante. Potable vers les populations, peut-être renforcer le couvert végétal pour des lieux désertiques, renforcer le couvert végétal en plantant les arbres, peut-être cette rentabilité-là qu'il faut identifier, mais en termes de espèces non exigeantes, non. À mon avis.
En tout cas, ce qui est à suivre. Merci en tout cas à vous. Merci à vous, Marc Onan. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Brain Forest. Vous êtes basé à Libreville. Merci d'avoir été notre invité dans Coémergence.
Destination Éco.
Direction le Ghana, petit frère du Nigeria, comme on a l'habitude d'appeler affectueusement ce pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, c'est une stabilité politique doublée d'un dynamisme économique. Écoutons, comme chaque semaine, l'analyse du DG du cabinet Best Afrique, Mustapha El-Bourri. Il nous présente l'économie ghanéenne.
Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest. Pour vous le situer géographiquement, c'est un pays qui est localisé au bord du golfe de Guinée. Le Ghana a une superficie d'environ 240 000 km² pour une population d'environ 31 millions d'habitants. Donc c'est un pays avec une densité qui est assez élevée. Sa capitale, qui n'est plus à nommer et qui est connue au niveau international, qui est Accra, en plus d'être la plus grande ville du pays, car elle abrite près de 3 millions d'habitants, Accra est également à la fois le centre politique, le centre administratif, le centre économique et le centre financier du Ghana. Donc c'est vraiment la ville principale du pays. Pour ce qui est des ressources du Ghana, en plus du pétrole et du gaz, j'en citerai trois autres qui sont le cacao, la bauxite et l'aluminium. Le Ghana, en fait, dispose vraiment de nombreux atouts économiques, mais également politiques et sociaux, qui font de ce pays, en fait, la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest.
Le Ghana et le Maroc, c'est beaucoup de similitudes. Des entreprises marocaines de la cimenterie opère dans ce pays. Avec le Ghana, le Maroc essaie de diversifier les opportunités de développement de ses relations économiques. Écoutons à nouveau Mustapha El-Bourri du cabinet Best Afrique.
Pour parler un peu des similarités entre le Ghana et le Maroc, j'en citerai une qui est vraiment très très importante. En effet, le Maroc et le Ghana, si je peux dire, sont des acteurs économiques et des acteurs politiques qui aujourd'hui sont incontournables sur la scène africaine. Et je pense très très sincèrement que le partenariat économique entre le Maroc et le Ghana peut servir de modèle pour la coopération Sud-Sud, cette coopération qui est aujourd'hui prônée en fait par tous les leaders de tous les pays africains, et ceci sans exception. D'ailleurs, le partenariat entre le Maroc et le Ghana, il a vraiment connu une grande dynamique ces dernières années. Et cette nouvelle dynamique, elle a été apportée grâce, si je peux dire, aux politiques sectorielles et aux politiques de diversification qui ont été amorcées par les deux pays. D'ailleurs, plus d'une vingtaine d'accords de coopération entre le Maroc et le Ghana ont été signés ces dernières années. Je pense également, très sincèrement, que le Ghana peut tirer profit de l'expérience marocaine dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine agricole. C'est un domaine qui est très important pour le gouvernement ghanéen, qui mise beaucoup dessus, et qui a mis en place un programme qui est dédié à l'agriculture, qu'il a nommé Planter pour l'alimentation et l'emploi. Donc le Ghana se trouve être un marché très très attractif pour les entreprises marocaines. Je vais vous citer quelques exemples de groupes marocains qui ont vraiment l'intention de s'implanter au Ghana. En premier, je citerai le leader mondial des produits phosphatés, qui n'est plus à nommer, qui est l'OCP. L'OCP veut implanter au Ghana une usine de production d'engrais qui est adaptée aux besoins spécifiques du sol ghanéen. Cette usine sera mise en place d'ici 2024 et elle a la particularité d'être basée sur les matières premières du Maroc et du Ghana en même temps, à savoir le phosphate et le gaz. La capacité de production de cette usine sera d'environ 1 million de tonnes. Donc c'est une usine qui sera assez conséquente. Pour passer sur un autre domaine, il y a également le grand groupe immobilier que tout le monde connaît, marocain, Toha, qui a fait part en fait de sa volonté de lancer au Ghana des projets immobiliers dans différents domaines, en particulier dans le domaine des logements sociaux et dans le segment du moyen standing. Donc je terminerai cette présentation en disant que le Maroc et le Ghana, c'est une volonté affichée de développer des relations prometteuses.
Merci à vous, Mustapha El Bourri. Je rappelle que vous êtes le DG du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah.